Exercice 7.
De 1660 à 1763, pendant le temps des colonies, à la campagne comme à la ville, l'habitation typique des familles modestes ne compte qu'une pièce où tous dorment, mangent et accomplissent leurs tâches quotidiennes. Le lit dans un coin est fermé par des courtines ou des portes de bois afin de préserver un peu d'intimité. Un berceau, une table, des bancs, quelques chaises alignées contre un mur, un ou deux coffres où l'on range effets personnels et ustensiles, l'ameublement se résume à cela. Les bourgeois et les grands marchands, eux, font construire des demeures à la mesure de leur propre prestige. Ils importent progressivement des meubles de style Louis XIII. Après la conquête, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, les Anglais et les Écossais s'installent dans les demeures rurales traditionnelles dont ils transforment l'aménagement. Dormir dans la pièce où l'on mange devient malséant. Peu à peu, les chambres à coucher sont aménagées à l'étage sous les combles, ce qui amène à l'apparition des lucarnes. Au rez-de-chaussée, la cuisine sert toujours de salle commune. Une grande chambre s'y ajoute que l'on n'ouvre que pour les très grandes occasions. On y trouve une petite table et quelques chaises à accoudoir, un crucifix. Pendant ce temps, à la ville, les bourgeois adoptent avec enthousiasme le modèle anglais dans lequel les pièces s'organisent autour d'un grand hall central. La cuisine est reléguée au sous-sol et le rez-de-chaussée, l'étage noble, se divise entre salon et salle à manger, voire bureau et bibliothèque. Entre 1867 et 1939, à l'ère de l'industrialisation, le train et les bateaux à vapeur facilitent les communications, les importations, les voyages. La mode de l'orientalisme était très tendance. Chez les bien nantis, le salon devient le lieu de toutes les extravagances. Les murs sont couverts de tableaux, de soieries, de gravures. Sur les tapis d'Orient, les tables et les guéridons sont surchargés de porcelaine et de plantes. On entasse les coussins, les paravents, les tentures à franges, les cabinets laquées incrustées de nacre. Du côté de la classe moyenne, apparue avec l'ère industrielle, le mobilier de salon se démocratise grâce à la fabrication en série. Canapés et fauteuils deviennent courants, y compris dans les fameux salons doubles des appartements montréalais, lesquels n'ont d'ailleurs de salon que le nom. Ce sont en fait des chambres à coucher. À partir de 1960, depuis que le modernisme et le postmodernisme s'installent, la vogue des zones ouvertes tend à faire du salon une pièce à vivre. De plus en plus souvent, on y mange, on y joue, on y regarde la télé et parfois on y dort. Le chat y a droit de cité, tout comme le chien à qui le canapé n'est même plus interdit. Cela veut dire que le salon d'aujourd'hui vient d'accomplir un intéressant retour aux origines, puisqu'il est en train de redevenir la pièce multifonctionnelle, adaptable et flexible qu'était la salle commune des premières maisons de Nouvelle-France.